tout de suite sur Radio B avec Résonance. Alain Goudard, bienvenue à tous. On en parle aujourd'hui dans Résonance. L'art, les pratiques artistiques peuvent-elles constituer l'un des fondements à partir duquel une société inclusive peut s'imaginer se bâtir ? Ce qui est en jeu dans l'idée de travailler à bâtir une société inclusive, c'est tout d'abord que toute personne puisse concevoir sa dignité d'homme, prendre la mesure de sa capacité intellectuelle et décider de son usage. Chaque personne doit être un individu en marche qui va voir, expérimente, change sa pratique, vérifie son savoir. Tout cela nourrit sa pensée, sa propre parole, son propre point de vue et ainsi sans fin. Si nous voulons que la coexistence de cette pluralité fasse sens, écrit Caroline Emke, alors nous devons trouver une langue, des pratiques et des images pour cette pluralité, et pas seulement à l'usage de ceux qui ont toujours été visibles et désirés, mais aussi pour les autres, dont les expériences et les perspectives sont volontiers oblitérées. Fin de citation. L'homme pense parce qu'il existe, écrit par ailleurs le philosophe Jacques Rancière, reste que la parole doit se dire, se communiquer à d'autres êtres pensants. Et rebondissant avec les propos de Charles Gardou, celui-ci précise encore que vivre sans exister, c'est la plus cruelle des exclusions. Donc travailler à un développement inclusif, ou plus globalement à une culture inclusive, nécessite que chacun, qui que nous soyons, puisse avoir accès aux différents espaces, lieux de culture, d'expression et de pratique artistique. Les écoles de musique, les conservatoires sont l'un des espaces possibles pour accéder aux pratiques artistiques. Ils offrent un éventail de formations musicales de tous les styles, depuis l'enseignement individuel, instrumental et vocal, jusqu'aux modalités de formation en groupe les plus divers. Pour appréhender cette réflexion de manière très concrète, Résonance a pris la route et celle-ci nous a conduit aujourd'hui en Haute-Savoie, à Alby-sur-Chéran. Là, nous avons installé nos micros au pôle culturel et sportif de cette commune. Et j'en profite d'ailleurs, en ce début d'émission, pour remercier à la fois la municipalité d'Alby-sur-Chéran et Madame Christiane Dubonnet, directrice de l'école de musique, de nous avoir permis de réaliser cette émission dans ce lieu et d'avoir mis à disposition celui-ci pour la présente émission qui a été enregistrée le 27 avril 2018. Résonance sur Radio B, rencontre avec l'équipe pédagogique de l'école de musique de la Clé et des Us à Frangy en Haute-Savoie et avec Camille Faure, chef de service du FAM, la Ferme des Roches. Alors plusieurs invités ont pris place autour des micros de Résonance et notamment donc une partie de l'équipe pédagogique de l'école de la Clé des Us établie sur la commune de Frangy à quelques kilomètres d'Alby-sur-Chéran. Alors j'ai le plaisir d'accueillir à ce micro tout d'abord Jennifer Brun. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue en tout cas, vous êtes professeur de flûte traversière.
Oui, exactement.
Voilà, ensuite également Gaëlle Perra, bonjour.
Bonjour.
Et vous êtes aussi professeur de hautbois.
Oui.
Voilà. Et puis, en même temps, on aura l'occasion d'en parler. Vous participez à la conduite de l'atelier musical qui se déroule avec les résidents du FAM de la Ferme des Roches.
Oui, c'est ça.
Voilà. Alors continuons donc notre tour avec Benoît Magnin. Bonjour.
Bonjour.
Et vous êtes corniste.
Exactement. Oui.
Voilà. Hein. Et vous occupez, entre autres, dans l'école, on pourrait y venir aussi tout à l'heure, mais du travail d'orchestre et puis des ateliers de formation musicale.
C'est exact, et exactement aussi de l'harmonie locale.
Voilà. Ensuite, je me tourne aussi également vers Marie-Astrid Barr. Donc, vous êtes la directrice, par contre, de l'école de musique de la Clé des Uses. Et puis, vous conduisez aussi l'atelier Éveil et Mouvement et l'atelier musical avec les résidents du FAM. Bonjour.
Bonjour. Oui, tout est exact.
Voilà. Et puis, nous avons aussi Hervé, Magisano. Pardon.
Bonjour.
Voilà. Et vous êtes professeur de guitare?
Tout à fait.
Voilà, de guitare basse, enfin, de différents instruments à cordes.
Un petit peu toutes les familles d'instruments.
Voilà, toutes les familles d'instruments. Hein. Et puis aussi un peu du secteur musique actuelle également.
Voilà, dans le cadre d'un atelier de pratique collective, oui.
Voilà. Et aussi, aux côtés de Marie-Astrid Barr, il y a aussi Laurent Calu. Bonjour.
Bonjour.
Voilà. Et vous êtes professeur de chant.
C'est ça.
Et puis, bien sûr, développant des ateliers vocaux qui découlent un peu de cette place de professeur.
C'est ça. Avec les adultes, en l'occurrence, et puis des enfants aussi.
Voilà. Et puis enfin, plaisir aussi également d'accueillir Camille Faure. Bonjour.
Bonjour.
Et vous êtes chef de service à la ferme donc des Roches, le FAM qui est situé également.
Oui, qui se situe sur la commune de Chaumont, donc à quelques kilomètres de Frangy.
Voilà. Donc bienvenue à tous dans cette émission et peut-être je me tournerai vers vous, Marie-Astrid Barr, directrice de l'école de musique à la Clé des Us, pour se dire comment effectivement cette pratique musicale, qui est celle que déployée ici au sein de l'école, petit à petit essaye de s'ouvrir justement à l'accueil de tous et notamment aux personnes en situation de handicap ou élèves ou adultes en situation de handicap. Et puis on verra ce lien avec Camille Faure étant là, avec le FAM. Mais comment cette idée petit à petit est venue on sait qu'il y a bien sûr les lois qui sont là, mais plus particulièrement ici dans l'historicité de l'école et des publics qui la fréquentent, comment petit à petit de mettre en branle toute son équipe autour de cette idée, les choses se sont un petit peu formées.
Alors, j'étais professeure dans l'équipe pédagogique de la Clé des Us depuis un certain nombre d'années. Mmh. Et il y a eu un heureux concours de circonstances, c'est-à-dire qu'il y a eu le foyer d'accueil médicalisé de la ferme des Roches à Chaumont qui a ouvert ses portes en 2013. Voilà. Et c'est l'année où j'ai eu l'opportunité d'avoir des heures de direction pédagogique dans l'établissement de la Clé des Us. Ayant par ailleurs une pratique d'atelier auprès de personnes en situation de handicap, c'était une activité parallèle à mon activité d'enseignement à l'école de musique. Mmh. Ces deux concours de circonstances, l'ouverture du foyer et ma prise de fonction, en quelque sorte, en tant que directrice pédagogique, ont fait que tout pouvait se regrouper, on va dire, et ça avait sens. On était dans une réflexion de projet d'établissement. Voilà, il y avait déjà une ouverture sur le public scolaire depuis longtemps. L'école de musique proposait son offre pédagogique, musicale, artistique à différentes personnes du territoire. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a commencé à parler d'un partenariat entre le foyer d'accueil médicalisé et la Clé des Us. Et ça a mis du temps à se mettre en place et nous en sommes maintenant à notre deuxième année de partenariat actif.
Parce qu'il est certain qu'on entend depuis un certain nombre d'années, et ce qui est bien d'ailleurs, ouverture, démocratisation, la musique accessible à tous, la musique pour tous, ce sont des mots, des phrases aussi qu'on entend beaucoup depuis quelques années au sein des écoles de musique, et on peut dire que les choses ont je pense, aussi bougé, aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain. Est-ce qu'à votre avis, cette réalité-là de recherche d'une démocratisation, d'un accès de la musique à tous, et vous venez de dire, voilà, le fait qu'une école comme celle-ci, bien sûr, s'engage aussi dans cette voie. Est-ce que c'est une vraie réalité en échangeant avec les autres collègues ou directeurs d'écoles de ce territoire, par exemple? Est-ce que ça vous semble quelque chose qui commence à avancer vraiment, oui, sérieusement, au-delà des mots, si je peux dire?
Oui, c'est vraiment au-delà des mots. Il y a des choses, des actions qui se mettent en place avec toujours la volonté partagée et des institutions et des écoles de musique. voire aussi et heureusement de certains élus, ça, il y a des choses qui se mettent en place de manière pérenne et ça va au-delà des actions ponctuelles qui ont pour certaines le mérite d'exister. Il n'y a aucun jugement de valeur là-dessus, mais c'est vrai qu'on essaye un maximum de faire que ça puisse se pérenniser. Quand on accueille une inscription en école de musique, notre souhait en tant que professeur, c'est de pouvoir mener cet enfant ou la personne qui s'inscrit, de l'accompagner dans la durée. Mmh. Et c'est exactement ce qu'on souhaite pour tout type d'action et d'accompagnement artistique, quels que soient les gens qui viennent à nous ou vers qui nous allons.
Alors on sait, pour garder peut-être aussi encore un peu quelques éléments du cadre général, qu'aussi cette réflexion auprès des écoles de musique, de l'accueil de tous et notamment des publics en situation de handicap, les conseils départementaux eux aussi ont la compétence hein, enseignement artistique, et ça c'est depuis la loi de 2004 là-dessus, et il y a un article aussi qui précise un peu ces modalités vis-à-vis des conseils départementaux, et donc ils ont été en relation avec l'État dans l'obligation de travailler aussi à la mise en place d'un schéma départemental aussi des enseignements spécialisés qui lui aussi précise hein, c'est un petit peu son but de qu'est-ce que peut être les directions en tout cas que chacun des départements peut prendre au vu des différents enseignements des pratiques artistiques, de la danse et du théâtre et de la musique bien évidemment, mais aussi figure dans ce schéma départemental des enseignements artistiques des orientations pour aussi faire en sorte que les écoles s'ouvrent aussi à l'accueil de publics en situation de handicap.
Oui, tout à fait. C'est vrai que nous avons été accompagnés par le département sur ces deux premières années, plus dans le cadre de subventions allouées à des projets qui sont appelés transversaux, pardon. Mm-hmm. Donc c'est vrai que c'était un projet transversal dans le sens où ça nous a amené à travailler avec une institution installée sur le territoire. Maintenant nous avons eu la chance d'être accompagnés sur ces deux premières années. Cette aide financière va prendre fin, donc falloir qu'on trouve maintenant d'autres manières de pouvoir fonctionner.
En tout cas, dans le cadre du schéma, il y a un accompagnement, une incitation.
Il y a une incitation, il y a un accompagnement. Le département est ouvert et présent pour nous accompagner. Oui.
Donc du coup, ça faisait une coïncidence aussi entre votre propre volonté, le travail de l'équipe, le fait qu'aussi, sur le point de vue institutionnel et départemental, il y a la possibilité aussi de s'engager dans l'accompagnement et d'aller. Là, après, on a la loi de février 2005 aussi qui demande effectivement à tous les établissements publics aussi, ça c'est une des parties importantes aussi de cette loi, de faire que ceux-ci s'ouvrent aussi et se rendent accessibles, non seulement au niveau du bâti, mais aussi, bien entendu, au niveau du contenu, et c'est ce qui va nous intéresser d'évoquer dans cette émission. Et là, ça conjugue, en réalité, c'est tous ces aspects-là, et ça permet d'accompagner, en tout cas, une équipe. Et ça vous semble aussi assez, de la part du département, un accompagnement assez fort, assez serré, si je pourrais dire, pour vous accompagner dans cette démarche, outre l'aspect financier, bien évidemment, qui est très important.
L'accompagnement du département sur le départ a été déterminant. Ils nous ont aidés. Évidemment, financièrement, ça a été vraiment le nerf, comme on dit. Mais c'est vrai qu'on a pu avoir des liens avec aussi tout ce qui était service personnes âgées handicapées. On a senti un travail en réseau et les différents services du département travaillaient entre eux et travaillaient avec nous. Ça a été très important. Pour ça.
Résonance sur Radio B, rencontre avec l'équipe pédagogique de l'école de musique La Clé des Us, à Frangy, en Haute-Savoie. On vient d'entendre Marie-Astrid Barre nous expliquer un peu le contexte, mais comme je l'indiquais tout à l'heure, nous avons plusieurs invités, notamment plusieurs professeurs aussi de l'équipe pédagogique de l'école de la Clé des Us à Frangy. Et peut-être je vais me tourner vers vous justement, Gaëlle Perra, pour essayer d'aborder un peu le fait que vous vous êtes lancé aussi dans cette approche. Je crois qu'il était une approche nouvelle puisque vous n'aviez pas eu jusqu'à présent l'occasion de pouvoir travailler avec des élèves ou des adultes en situation de handicap.
Oui, tout à fait. C'était vraiment très nouveau. Je suis presque arrivée par hasard, en fait, dans cette situation. Et je ne le regrette pas du tout. Parce que, bon, déjà, l'avantage, c'est de travailler en équipe. On est deux, en binôme avec donc Marie-Astrid, qui a son expérience. Et donc, qui m'a permis de m'intégrer, en fait, à ce procédé. Concrètement, l'atelier, il a lieu le lundi, une heure par semaine. Donc, c'est vrai que c'est quand même...
Là, vous vous rendez dans le site, dans l'établissement, où est-ce que les élèves viennent à l'école de musique ?
Les élèves viennent à l'école de musique, en fait.
Voilà, ça, c'est déjà aussi un fait important.
Oui, je pense que pour eux, c'est une grosse démarche déjà de prendre le bus, de venir. Ils sont encadrés par deux éducateurs. Et puis, donc, il y a nous deux. Donc, le groupe se situe entre, on va dire, 5 et 7 résidents. Enfin, en ce moment, on a plutôt 5 résidents. Et donc, c'est vrai que l'atelier, c'est quand même quelque chose d'assez cadré dans la façon dont on va s'organiser, on va dire, par des différentes étapes. Enfin, le fait de faire des jeux sur le souffle. Ou, étant donné que je suis oboïste, c'est vrai qu'et Marie-Astrid est flûtiste de formation. On est parti sur l'idée du souffle et de travailler autour de ça. Mais après, on utilise des percussions. Il y a un jeu de codage en fait, qui a été mis en place sur le fait de faire participer les résidents ou les élèves dans le fait de travailler sur l'écoute, le fait de comprendre aussi à quel moment est-ce qu'on peut jouer, à quel moment est-ce qu'on peut s'arrêter, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Donc voilà, ça c'est un cadre qui est un peu posé, mais à l'intérieur de ça, chaque atelier est très différent et en fait ce qui est très très riche, et je crois qu'en tant qu'enseignante, c'est super de découvrir ça ou de continuer à l'apprendre, c'est qu'on ne sait jamais ce qui va vraiment se passer. Et ils nous apprennent, les élèves nous apprennent énormément sur la capacité de rebondir ou le fait d'accepter que ça ne va pas se dérouler comme on l'avait prévu parce qu'il y a un phénomène, une attitude, un sourire ou un refus parfois de vouloir faire quelque chose. Et du coup, dans ces cas-là, on faut rebondir. Mais en fait, je trouve que ça se fait relativement naturellement à partir du moment où déjà, on n'est pas tout seul. Et puis en même temps, où on se laisse la place, où on se laisse l'autorisation de laisser la place à l'autre, en fait. Et ça rejoint la question de l'existence ou de la vie de tous les jours. Enfin, un atelier, c'est...
Et ça, vous avez trouvé que c'était un plus d'être à deux, parce que souvent, on va prendre le schéma classique de l'organisation d'une école de musique, il est souvent duel, élève-professeur, ou le professeur se trouvant face à un ensemble d'élèves ou une formation. Là, du coup, le fait aussi d'être à deux, ça vous aurait semblé plus difficile si vous aviez été seul à intervenir auprès de ce public ?
Étant donné que je n'avais pas d'expérience là-dedans, je pense que oui, vraiment, sincèrement.
De vous en dire à deux, ça vous a épaulé par rapport
vraiment,
à cette approche.
C'est même très riche, en fait, parce que je trouve que des pistes sont amenées par Marie-Astrid, ma collègue, et en même temps, il y a le fait qu'on échange, c'est-à-dire que d'autres... sont amenées par moi. Et du coup, elles sont amenées aussi par les élèves, elles sont amenées par l'attitude, le comportement, la façon dont ça va se passer dans une séance. Et le fait d'être deux, ça permet aussi, il y en a une qui joue, l'autre qui va s'adresser aux résidents, ça permet vraiment d'échanger. Enfin, l'idée de la transversalité, finalement, c'est pas que dans le projet, c'est aussi dans la relation.
Ils se retrouvent aussi dans le direct du terrain. Ouais. Et vous évoquiez aussi tout à l'heure qu'effectivement, le travail musical avec ses résidents, avec ses hommes, avec ses femmes, ses jeunes hommes, ses jeunes femmes, vous emmène aussi dans l'imprévisibilité, dans l'inattendu. En tout cas, on peut avoir envie de préparer quelque chose, mais du coup, peut-être que ça va nous emmener ailleurs. Et ça, c'est un fait nouveau. Enfin, dans votre travail pédagogique habituel, c'est quelque chose qui a été un peu plus bousculé ou qui est mis plus en exergue que ce que vous aviez l'habitude auparavant ?
C'est quelque chose, en tout cas, qui, je pense que ça existe dans l'enseignement, l'imprévu.
Bien sûr.
Mais du coup, ça me permet de voir qu'on peut encore aller plus loin dans l'imprévu et qu'on peut vraiment encore plus s'en servir pour avancer. Mmh. Et justement, c'est pas parce que quelque chose, un son, où on n'attend pas un résultat en fait précis, et je crois que c'est ce qui laisse la liberté d'aller plus loin, c'est que on n'est pas sur quelque chose on ne doit pas obtenir quelque chose d'arrêté, mais justement c'est ce qui va nous être proposé sur l'instant qui va nous permettre d'avoir quelque chose en fait à la fin, qui peut être juste un moment d'improvisation, de rencontre musicale. Il y en a qui vont se mettre à chanter, d'autres qui vont se mettre à faire des rythmes sur le corps, alors que on n'y avait pas forcément pensé. Et je trouve que du coup, ça va nous amener des fois à des moments, des morceaux en fait qui vont se créer à ce moment-là. Et je crois que dans l'enseignement général, on va dire, dans le fait juste d'apprendre par exemple le hautbois, eh bien, peut-être qu'on se l'autorise moins au départ, mais moi, ça m'amène à laisser l'élève peut-être s'exprimer davantage, peut-être encore plus aujourd'hui.
Du coup, ça met en branle des oser faire, des oser dire, des oser se mettre en mouvement.
Oui, je crois, oui, on peut se dire ça, et même pour nous. Ça...
Oui, ça c'est intéressant. Oui. C'est-à-dire que ça met en branle non seulement celui et celle qui, avec lequel on met en œuvre ce moment de musique, mais ça met en branle aussi celui qui est transmetteur.
Voilà, exactement. Ce qui est important, c'est d'avoir quand même son cadre, je pense, au départ. Et puis après, on va se dire, non, ce son il est peut-être trop agressif ou c'est peut-être trop fort. Donc du coup, je vais peut-être penser autrement. Je vais peut-être l'amener autrement ou différemment. Du coup, nous aussi, ça nous remet en question. En tout cas, ça nous autorise à être peut-être plus tolérants.
Ça, c'est important. Je trouve que la confiance, la tolérance, c'est des aspects très importants. Et c'est montrer aussi que finalement, la relation artistique, enfin, ce qui va se passer artistiquement, c'est avant tout une aventure humaine, finalement, entre deux individus ou plusieurs individus, mais qu'avant tout, c'est l'humain qui est au cœur du sujet.
Oui, et puis je crois que les élèves nous donnent de belles leçons d'humanité, parce qu'en fait, au départ, ça se passe sur 10 séances hein, au niveau des ateliers. Mmh. Et c'est vrai que sur les 10 séances, on peut se dire quand même qu'il y a une énorme évolution de comportement, de la relation aussi. Au départ, les résidents ne nous connaissent pas forcément. En tout cas, moi, ils ne me connaissaient pas du tout. Et donc, ils ne s'approchaient pas forcément de moi. Mais après, on va voir qu'au bout de 4, 5 ou 6 séances, eh bien, dès qu'ils rentrent dans la salle, ils viennent nous dire bonjour. Il y a le contact, en fait, qui s'est fait entre nous. Et voilà, ça, c'est une première... un premier aspect de l'évolution de ces séances-là, mais il y en a plein d'autres. Il y a ceux qui rentrent et qui veulent déjà ressortir. Ça, c'est sur les premières séances. Et puis, au bout de la quatrième ou la cinquième séance, on se rend compte qu'ils ne veulent plus partir tout de suite. Ça va arriver peut-être un petit peu plus tard. Ou ils vont s'asseoir et juste écouter à un moment donné, alors qu'au départ, il n'y avait pas ce contact-là, en fait.
Oui, donc, parce qu'il y avait d'autres appréhensions,
voilà,
d'autres inhibitions, d'autres inquiétudes aussi, peut-être aussi, de changer de lieu, rencontrer d'autres publics. Quelque part aussi, ils savent qu'ils vont s'aventurer, quelque part aussi. Donc, comment je vais pouvoir m'aventurer ? C'est-à-dire, là aussi, le rapport de confiance, finalement, pour dire, je peux me dévoiler que si, effectivement, l'autre m'accepte dans ce que je suis et m'aide aussi, ou m'accompagne à m'aventurer dans ce que je suis, dans ce que je peux, quelquefois à me perdre aussi, mais à me retrouver. Et ça dépend de celui ou de celle qui est là et qui me donne les possibilités d'aller dans ce registre-là.
Oui, puis il y a le fait que je pense qu'au bout d'un moment, ils se rendent compte qu'on les laisse s'exprimer. Enfin, ils ont de la place, en fait, pour pouvoir justement cette histoire de réagir à l'imprévu. Ça permet à l'autre de pouvoir s'exprimer comme il en a envie, finalement. Je crois que pour ça... Enfin, Marie-Astrid, elle réagit très très vite à ça et ça me permet moi aussi de... Enfin, on travaille vraiment à deux, donc il y a vraiment l'idée de à deux et après avec eux. Et comme il y a cette idée pour l'élève, en fait, il est le bienvenu, donc il n'y a pas de raison qu'il ne puisse pas exister et je crois que peut-être qu'ils en prennent vraiment conscience sans forcément mettre des mots dessus, mais... Donc le fait d'avoir la place permet aussi de se dire bonjour plus facilement et de travailler ensemble.
Hervé Magisanou, quand vous entendez les propos de Gaël Perra, vous retrouvez aussi dans ce que vous vivez, vous approchez, ou les questionnements qui surgissent par rapport à ce que Gaël Perra vient de nous dire.
Oui, oui. Alors c'est vrai que ça interpelle dans le descriptif en fait des dispositifs qui sont mis en place. Mmh. Et du coup, on a tendance aussi à se projeter dans ce qu'on pourrait rencontrer nous dans le cadre de nos ateliers. Mmh. Et c'est vrai que la première question qu'on a tendance à se poser, c'est quand on a différents publics qui sont mélangés, quel dispositif on peut arriver à envisager pour que tout le monde s'y retrouve, j'allais dire.
Et ça vous oblige à envisager les choses sur quelle manière? Alors on parlerait d'homogénéité et d'hétérogénéité, d'avoir un public plus hétérogène. Qu'est-ce que ça vous demande peut-être de plus ou on voit que Gaël et Marie-Astrid interviennent à deux, vous intervenez peut-être seul dans votre cas peut-être.
Oui, dans le cas de mes ateliers.
Donc
oui.
Du coup, et voilà, ça peut-être ça veut dire comment on peut ajuster à certains moments donnés des manières d'intervenir pour permettre d'autres choses. Mais qu'est-ce que ça a mis peut-être plus particulièrement en mouvement pour vous?
Déjà, je pense que au niveau de la description de ce qui est fait en termes de dispositif, le manque de formation dans mon cas, mm-hmm. Vraiment. Se sentir à l'aise avec un tel fonctionnement.
Vous intervenez auprès du FAM aussi à un moment donné?
Non.
Non, pas encore. Vous auriez envie?
Oui, c'est quelque chose qui m'intéresse, oui, tout à fait.
Voilà, et vous avez eu l'occasion, on évoquait aussi en début que c'est un travail d'équipe aussi finalement,
oui.
de pouvoir venir, je dirais, jeter un œil, vous glisser dans les moments de musique de cet atelier.
Oui, oui, j'ai pas encore eu l'opportunité de le faire. J'ai pu voir un peu ce qui se fait, hein, par biais de vidéo, effectivement. Mais...
Benoît Magnin, vous aussi, on disait tout à l'heure, vous êtes corniste, mais en même temps, vous occupez de pratiques collectives aussi, justement, avec l'orchestre. Quand vous entendez, justement, un petit peu, ou comment vivez-vous, vous, ces éléments nouveaux, si je peux dire, qui arrivent aussi dans le contexte de l'école d'aujourd'hui, et peut-être quelles incidences ça peut être aussi dans votre pratique d'aujourd'hui?
Alors, je vais aussi rebondir sur ce que Hervé a dit.
Oui, tout à fait.
Personnellement, moi, j'ai un peu d'antériorité dans l'école, parce que je suis un peu l'ancien de l'école. J'ai été directeur.
Et oui,
donc. J'ai vu comment elle est passée d'une école pour adultes au départ, pour les musiciens d'harmonie, petit à petit pour les enfants de ces adultes.
Oui, parce que c'est intéressant de rappeler ça, tellement les harmonies, c'est quand même quelque chose d'assez important en France, dans la culture, à toute une époque.
L'école avait été fondée pour ça, pour former des musiciens pour l'orchestre.
Ouais.
Et puis, on a eu cette lente évolution, grâce aux directeurs successifs, pour aboutir à des choses que je vois maintenant, moi, depuis ma place de professeur, et que j'admire beaucoup. Personnellement, moi, j'ai assisté à l'atelier de Gaël et Marie-Astrid. Je suis venu un jour. Régulièrement, Marie nous invite à dire passez voir comment ça se passe, c'est intéressant. Et voilà, je suis venu en tant que musicien et en tant que professeur de musique pour participer à cet atelier. Et c'était un moment très, très émouvant. Je voulais communiquer aussi sur l'aspect de la fragilité qu'il y a dans ces enseignements. Moi, je sens quelque chose de précieux et de fragile parce que les élèves qu'on a à ce moment-là, on a besoin de les soigner particulièrement, mais au sens musical du terme, j'allais dire. Mmh. On a besoin d'avoir beaucoup d'attention pour eux. Mmh. Parce qu'on sent qu'il y a quelque chose de très fragile qu'on est en train d'essayer de construire. Et puis, à côté de ça, on a quelque chose de très fort aussi, de très puissant dans l'expression musicale, dans l'expression humaine aussi. Je peux témoigner personnellement que j'ai eu la surprise d'être pris dans les bras par le premier élève qui est rentré dans la salle, qui ne me connaissait pas, que je ne connaissais pas. Il m'a embrassé, il m'a enlacé très fortement et il ne voulait plus me lâcher. Il fallait que ses indicateurs disent « c'est bon, maintenant tu peux lâcher Benoît, ça va bien se passer
».
Donc c'est des moments très forts, humainement très,
bien sûr.
Très puissants. Et puis ensuite, ça veut dire aussi qu'est-ce que je suis comme musicien là-dedans, qu'est-ce que j'apporte c'est quoi mon métier de musicien, faire de la musique avec eux, leur faire de la musique, écouter leur musique, l'apprécier, la compléter aussi par mon action. Donc voilà, c'est là-dessus que je voulais rebondir avec Hervé. C'est notre manque de formation aussi sur cet aspect-là, c'est-à-dire que régulièrement, Marie nous a sollicité, est-ce que vous avez envie de participer à cet atelier ? Et c'est toujours sur la base d'un volontariat, mais la plupart d'entre nous, je pense que je peux me faire l'écho de mes collègues,
de chacun, oui.
Dire que on n'ose pas faire ça peut-être, on a des réserves, parce qu'on a peur de ne pas être bien formé pour ça, de ne pas être à la hauteur en quelque sorte. Et on voit bien que c'est un enseignement qui exige davantage de nous sur certains aspects. Et je pense qu'on a la crainte de ne pas être tout à fait à la hauteur de cet enseignement. C'est pas du désintérêt.
Bien sûr que non. Et puis, je pense que c'est important justement dans cette approche, et que ce soit pour les uns ou pour les autres, celui ou celle qui vient participer à ce moment-là, et puis celui qui transmet. Et vous l'avez dit très justement, c'est tellement un enjeu humain fort que je dirais toute attitude est respectable et même à entendre. C'est-à-dire que du coup, chacun peut entrer et pas des stades identiques, justement pour pouvoir tisser cette relation. Mais on sent bien que c'est quand même, vous le disiez, je trouve assez très justement, que ce qui va être au cœur du sujet, c'est comment cette relation humaine peut se mettre en jeu, quel que soit l'individu, parce que j'imagine que vous avez aussi des élèves, et quand vous vous trouvez face à un orchestre, finalement, c'est un peu l'échelon sociétal en réduction qui est devant vous. Donc, avec ces complexités, c'est-à-dire, on évoquait l'hétérogénéité là tout à l'heure, mais de comportement, d'attitude, de manière d'être, d'être à l'écoute, de pas être à l'écoute, et ça se retraduit dans la musique et dans le son finalement.
Ah oui. Et puis la petite expérience là que j'ai replacée tout à l'heure, elle a bien sûr un impact sur ma vie de musicien en dehors, et sur la relation que j'ai avec mes élèves en temps ordinaire et avec les groupes. On voit les choses différemment aussi, on les appréhende différemment, et ça donne aussi une notion peut-être davantage d'ouverture par rapport à notre écoute, par rapport à notre relation avec le groupe humain qu'on a devant nous. Donc c'est bien sûr, on a besoin de formation dans ce domaine-là pour aussi, je pense, enrichir, augmenter notre manière d'appréhender la musique et de l'enseigner en général. Pas seulement pour les publics en situation de handicap.
Voilà, ça je pense que c'est intéressant. Et là, c'est un peu quand, dans l'introduction de cette émission, je parlais aussi de comment la culture peut participer à la fabrication d'une société inclusive. Donc ça veut dire que chacun puisse avoir la juste place à l'intérieur de cette société et puisse aussi être un des éléments de ce commun. Effectivement, ça peut participer à essayer de se dire que, effectivement, des individus qui paraissent assez éloignés, finalement, un peu de tout ça, peuvent, au travers peut-être de cet espace de pratique et de rencontre, et de se faire ensemble, on peut revisiter les places. On peut revisiter les compétences, on peut revisiter finalement, en tout cas on peut se donner droit à pas être assigné à la place qu'on nous a donnée, mais qu'on peut transgresser aussi ces places. C'est peut-être aussi tout ça qui nous bouscule aussi quelque part, le fait qu'on est peut-être dans des sociétés aussi qui nous catégorisent à nos places, mais qui nous autorisent très peu finalement à changer de place. Et alors que c'est ô combien important de pouvoir avoir des espaces dans lesquels on peut bouger, on peut entrer à un endroit, mais ces endroits peuvent nous en ouvrir d'autres, et donc nous ouvrir d'autres chemins. Peut-être que c'est un des rôles aussi, peut-être, des pratiques artistiques, qu'en pensez-vous ?
Oui. Après, je veux seulement évoquer ma situation personnelle,
oui,
mais c'est ouais, je veux redire encore une fois que ça amène à repenser notre manière d'enseigner et aussi notre manière d'être en général dans la société. Donc, c'est une idée audacieuse, très forte et qui va complètement modifier la figure de l'école, je pense.
Laurent Calu, on vient de parler de l'individu assez fortement, et son implication, finalement, que le vivant est au cœur du processus. Qui dit individu dit, bien sûr, toutes ces modalités d'expression. Et là, la voix est au cœur aussi de ce que peut être la modalité d'expression de chacun. Et je pense en plus aux personnes du FAM, avec des registres vocaux, là aussi très différent, des manières de s'exprimer en termes de langage, en termes de couleur de voix. Donc il a aussi nous confronte finalement à la norme aussi établie de qu'est-ce que c'est que le langage, de qu'est-ce que c'est que la parole, de celle qui peut être reconnue, de celle qui peut-être n'est pas forcément reconnue en tant que telle, ou en tout cas, elle donne lieu à des interprétations. Alors des fois, on peut la penser un petit peu bruiteuse parce qu'elle n'est pas totalement comme celle qu'on a l'habitude d'entendre, ou qu'on voilà, le consensus fait qu'on entend celle-ci ou qu'on la dénomme comme parole. Donc du coup, la voix, le travail de la voix, c'est quelque chose d'assez fort et essentiel, justement déjà pour chacun. Elle replacée dans ce contexte aussi de l'école de musique et de ce lien aussi avec ces personnes qui petit à petit entrent en musique et découvrent aussi leur voix. Là aussi, ça vous paraît un enjeu important de votre place à vous ?
Oui, absolument, puisque quand même, enfin bon, la voix, le chant en général, c'est quand même le premier instrument qu'on a tous sur soi, le premier moyen d'expression. Et du coup, ça nous permet aussi de se dire que on doit sortir des schémas, la voix elle doit sortir de telle manière, etc. Alors là, du coup, toute expression est bonne et il n'y a rien de bon, rien de mauvais, il y a juste ce qui sort, c'est tout.
Et ça, c'est important de pouvoir accompagner, parce qu'on sait ô combien c'est difficile de prendre la parole, elle émerge du silence.
Oui.
Et si on ne l'entretient pas, elle va revenir au silence. Mais faire le premier pas pour aller vers porter sa voix et porter son idée, c'est déjà un effort. C'est pas simple.
Non, c'est pas simple, évidemment. Comment dire effectivement, donc c'est comment dire la voix va déjà elle va révéler beaucoup de choses. Elle va aussi débloquer beaucoup de choses. Elle va permettre de nous mettre en relation ou pas. Et du coup, à partir de ça, il y a moyen de rebondir et d'amener petit à petit à faire avancer un peu, enfin à faire découvrir certaines choses, à proposer dans l'imitation peut-être.
Est-ce qu'on pourrait dire que du coup, le fait aussi de travailler avec ces publics-là, mais peut-être aussi le champ des pratiques artistiques, c'est un endroit où ça peut nous apprendre, voire même à réapprendre ce qu'est l'autre et comment être avec l'autre.
Oui, absolument. Il y a une chose importante que Gaëlle elle a dit, c'est-à-dire la non-obligation de résultat. Du coup, tout est acceptable. On sort un peu du schéma où les élèves, on a une idée d'où on veut les amener. Alors que là, tout est bon. C'est-à-dire tout est juste. Ça, c'est important. Et du coup, même nous, en tant qu'enseignants, ça nous met aussi dans un contexte plus serein à accepter l'imprévu, je pense.
Peut-être pour rebondir à votre propos là, à l'instant, je voudrais juste faire une petite citation du sociologue Bernard Lahire, qui justement réfléchit aussi sur les pratiques artistiques et aussi l'autonomie que aussi peut déclencher la pédagogie. Et il dit ceci, dans un tel modèle pédagogique, l'enseignant n'enseigne plus, mais guide. C'est le point de vue de l'élève qui est mis en avant lorsque l'on parle de le placer en situation d'apprentissage. L'acte d'enseignement est perçu comme un acte unilatéral, partant de l'enseignant pour arriver à l'élève, alors que c'est l'élève qui doit être au cœur de la pratique. Le savoir n'est plus un savoir tout à fait inculqué, mais co-construit avec les élèves. L'élève est, dit-on, acteur de ses apprentissages. On préfère que l'élève découvre ou constate par lui-même les règles, les phénomènes ou les faits, qu'il soit dans une démarche de recherche personnelle plutôt que dans l'écoute-apprentissage par cœur, la restitution d'un savoir déjà construit. C'est juste pour mettre en contrepoint à ce que... Absolument, il me semble que, sous une autre manière de le dire et d'aborder la réflexion, il va aussi dans ce questionnement, en tout cas, par rapport au fait de qu'est-ce que va être l'acte de transmission, qu'est-ce que va être l'acte d'apprentissage.
Exactement. C'est-à-dire que... comment dire ? Souvent avec mes élèves, par exemple avec l'atelier adulte que j'ai une idée de ce que j'ai envie de leur faire faire aujourd'hui, mais souvent c'est pas ça. C'est-à-dire que ils vont soit me poser une question, soit je vais repérer quelque chose qui va me faire rebondir sur autre chose, et souvent le cours que j'avais plus ou moins prévu, c'est pas du tout celui qui va se passer. C'est-à-dire que c'est l'élève qui va me proposer le chemin, enfin, en fait. Thank you.
Résonance sur Radio B, rencontre avec l'équipe pédagogique de l'école de musique La Clé des Us à Frangy, en Haute-Savoie. Alors Camille Faure, je rappelle que vous êtes chef de service du FAM de la ferme des Roches, tout proche d'ici, sur Chaumont. On vient d'entendre beaucoup de propos, finalement, de ce qu'engendre, finalement, cette approche, et en même temps, la réflexion que ça suscite pour tous ces passeurs, que sont les professeurs qui sont autour de nous, ici, dans cette école. C'est intéressant d'entendre, je trouve, de votre place à vous, ce qui vient d'être dit à l'instant par ces professionnels.
Tout à fait. Il y a beaucoup de choses qui ressortent et dont je prends d'autant plus conscience aujourd'hui dans cette émission. C'est que le partenariat qui a été souhaité entre la ferme des Roches et la Clé des Us a vraiment pris un sens. On souhaitait qu'il y ait vraiment une activité artistique qui se mette en lien avec l'extérieur. Et aujourd'hui, quand j'entends un petit peu les différents propos de chaque participant, et quand je vois aussi, moi je croise les résidents et les éducateurs qui accompagnent cet atelier chaque semaine, je vois vraiment qu'il y a un sens dans ces ateliers. À la fois un sens pour découvrir un apport au niveau des interactions. Puisque pour rappeler, le FAM de la ferme des Roches accueille des personnes adultes présentant des troubles
foyer d'accueil médicalisé.
Oui,
voilà, pour préciser
fait.
Pour nos auditeurs.
Tout à fait. Donc c'est vrai que ces ateliers ont vraiment permis une découverte, je pense, pour tout un chacun. Et qui prend vraiment une place importante et qui permet un mode d'expression pour les résidents par le mouvement, par la voix, par différents moyens. Et c'est très enrichissant pour eux.
Comment est vécu aujourd'hui, justement, vous parlez des équipes au sein de l'établissement, finalement, le fait que régulièrement, certains résidents, usagers, se rendent maintenant régulièrement aujourd'hui à l'école de musique. C'est un fait aussi important, aller à l'école de musique, ne pas recevoir, parce qu'on pourrait aussi revisiter un certain nombre de propositions artistiques qui sont faites aujourd'hui, mais qui aussi vont se faire directement dans l'établissement, ce qui est bien sûr tout aussi intéressant, bien évidemment. Mais peut-être c'est encore d'autant plus dans le sens où... vous, en tant que professionnel, et on pourrait citer d'autres professionnels, l'idée d'accompagner quand même ces usagers à aller autant faire ce peu qu'il sera possible dans l'ordinaire et d'être aussi avec les autres. Et là, par le projet aussi artistique, de ce fait-là, on entre aussi dans ce champ et du coup, on se rend à l'école de musique pour pratiquer dans un lieu où peut-être qu'on n'aurait jamais pensé qu'on pourrait s'y rendre, justement, participer à faire de la musique, à rencontrer d'autres. Ça, c'est peut-être quelque chose qui... comment ça a été ressenti, finalement, à tous les échelons, si je peux dire un petit peu, parce que c'est une organisation, c'est une démarche, et c'est pas rien, effectivement, au niveau de l'établissement.
Tout à fait, c'est une organisation, mais ça fait partie de la vie de l'établissement, l'ouverture sur l'extérieur. Donc, les résidents, comme disait Gaëlle, ils prennent le bus, ils se rendent jusqu'à l'école. Et rien que cette démarche, c'est un plus, c'est un vrai plus. Tout à l'heure aussi, Gaëlle disait, il faut oser. Alors oser, je pense que oser sortir, ça, c'est des choses qu'on vit déjà. Mais oser aussi participer au sein de cet atelier.
Dévoiler.
Voilà, oser se dévoiler, s'autoriser à faire quelque chose qui est nouveau. Je pense que c'est un petit peu de tous les côtés finalement, aussi bien les professeurs au départ, les résidents, les éducateurs qui accompagnent. Et finalement, je pense que chacun s'est découvert au sein de cet atelier.
Les personnes qui participent à l'atelier, est-ce que c'est une décision d'équipe? Est-ce que c'était des observations qu'on fait se dire, tiens, telle personne, elle semble sensible à la musique? Ou c'est peut-être d'autres facteurs qui ont contribué à dire, ça peut être intéressant pour cette personne, peut-être de s'aventurer aussi dans cette pratique musicale? Comment ça s'est un peu passé, le choix, entre guillemets, ou le fait que telle personne ou telle autre participe à cet atelier?
Alors, ces décisions se sont faites en équipe. Nous sommes partis des envies des résidents, de la connaissance que nous avions aussi de chacun d'eux, avec aussi finalement des questionnements parce qu'on ne savait pas non plus si ça allait convenir à chacun. Donc on a fait des essais, on s'est rencontrés du coup avec Marie-Astrid au fur et à mesure de la mise en place des séances, ce qui a permis de réajuster aussi un petit peu les groupes à un certain moment. Et aujourd'hui d'avoir des résidents qui prennent plaisir, l'idée c'est vraiment aussi cette notion-là de plaisir. L'idée c'est d'y aller avec envie.
Et vous sentez que ça donne des envies à d'autres, justement ? C'est-à-dire, tiens, bah, eux, ils vont faire de la musique. Est-ce que ça promeut des envies de se dire, bah, nous, on pourrait peut-être faire du théâtre ou on pourrait peut-être aller vers d'autres disciplines artistiques ? Enfin, est-ce que ça a été, là aussi, est-ce que ça représente un moteur quelconque vers une discipline artistique ou une dynamique culturelle pour l'établissement ?
Oui, c'est vrai que cet atelier, alors les résidents, certains en parlent, ça suscite presque des jalousies finalement, en tout cas des souhaits, on voit qu'il y a des souhaits qui se développent à ce niveau-là, donc oui, on souhaiterait aussi pouvoir déployer un petit peu d'autres ateliers de ce type artistique, parce que c'est un vrai plus.
Et de votre point de vue de chef de service et d'être à l'intérieur d'un établissement médico-social, comment, je dirais d'une manière un peu plus générale, mais percevez-vous quand même l'accès à la culture au sens large ? Vous êtes aussi on est en milieu rural, il y a des sites, il y a des éloignements, vous l'avez évoqué, des organisations. Est-ce que vous sentez aujourd'hui qu'on facilite assez cet accès à la culture, je dirais au sens large, des usagers ?
Je pense que de plus en plus, les différents établissements artistiques ou culturels accueillent volontiers un public qui est en situation de handicap. Donc oui, je pense que c'est favorisé et du coup, nous, on facilite aussi ces ouvertures-là grâce à ces accueils qui sont positifs.
Je vais me retourner vers vous, Jennifer Brun. On le disait tout à l'heure, vous enseignez la flûte traversière.
Oui.
Quand on entend un petit peu tout ce qu'il s'est dit autour de cette table, comment vous vivez vous aussi cette situation à la fois en tant que musicienne, enseignante, dans les paramètres que ça met en jeu, dans le fait de cette ouverture de l'école à l'accueil de ses publics.
Alors c'est vrai que moi je me suis pas encore lancée.
Oui.
C'est vrai que ça m'intéresse beaucoup. J'ai pu voir un peu ce qui a été fait à travers des vidéos et puis j'ai participé à cette formation qu'on a eue. J'ai trouvé ça super enrichissant. Maintenant c'est vrai que j'ai l'impression que en tant qu'enseignante, faire cet atelier demande un certain lâcher prise en fait pour pouvoir donner, recevoir et donner en retour surtout. C'est la question que je me pose, pourquoi je ne participe pas encore à ces ateliers, c'est que je sais pas si je suis capable de ce lâcher prise en fait.
C'est accompagné pour finalement aller peut-être dans ce
lâcher prise. C'est vrai qu'être à deux, du coup, ça pourrait faciliter les choses, mais voilà.
Ça peut-être dire, comme ça on peut rebondir justement avec les professeurs autour de la table et de ces micros, Marie-Astrid Barre. Là on vient, il y a l'atelier, il vient s'inscrire à un moment de la semaine dans l'établissement. L'idée aussi, alors c'est déjà un fait important, on l'a évoqué avec Camille Faure, d'aller à l'école, c'est déjà quelque chose d'extrêmement important, de se rendre dans le lieu où tout le monde peut y avoir accès. Encore est-il qu'à un moment donné, il va falloir trouver les transpirations entre, on a entendu les différentes disciplines, les différentes modalités qui sont proposées par l'école. Comment on peut se tisser ou s'imaginer, ou peut-être pas encore à l'heure d'aujourd'hui, mais comment peut-être les perspectives, peut-être pour rebondir dans ce que soulevait aussi Jennifer Brun, tous les professeurs ne sont pas autour de cette table, mais comment impliquer, parce qu'on sent bien que c'est une dynamique d'équipe qui est nécessaire, mais du coup, comment vous imaginez, c'est à partir de ce qui se passe aujourd'hui, je dirais les transpirations qu'ils vont pouvoir avoir, ou comment faire des liens, ou comment vont s'imaginer des liens, des rencontres avec d'autres parties enseignées ou disciplines enseignées dans l'école ?
Oui, alors c'est vrai que c'est vraiment une question qui nous préoccupe, qui me préoccupe au jour d'aujourd'hui et puis qui nous préoccupe tous. L'atelier d'aujourd'hui, donc comme le précisait Camille, c'est donc accueil des jeunes adultes qui sont atteints de troubles autistiques. Donc c'est vrai que c'est quand même il y a quand même une particularité, c'est-à-dire que il y a quand même un soin un soin relationnel auquel il faut être attentif, et c'est vrai que jusqu'à présent, ces résidents viennent le lundi après-midi. Alors c'est une journée pendant laquelle, à l'heure à laquelle ils arrivent, il n'y a encore finalement pas grand monde à l'école de musique. Au moment où ils en sortent, il n'y a encore pas grand monde à l'école de musique. Donc finalement, ils viennent dans les locaux, mais ne croisent pas encore de monde.
Alors les autres usagers de l'école.
C'est absolument indépendant de notre volonté. Ça s'est fait parce que c'était,
on
a organisé comme ça. C'était vraiment le côté organisationnel. Après, on a émis peut-être une idée un jour de pouvoir, même ne serait-ce qu'une seule fois, faire avec ce même groupe faire un atelier, mais peut-être à l'occasion des portes ouvertes. C'est un atelier qui reste fermé parce que ouvrir l'atelier à tout le monde pour ses résidences. C'est encore délicat pour eux. Je pense vraiment. Mais par contre, avec le fait qu'ils arrivent, qu'il y ait du monde et qu'ils ressortent, qu'il y ait du monde, ça permet à tout le monde de se croiser. Enfin, il y a une vie dans l'école le mercredi après-midi qui est complètement autre que le lundi ou le vendredi après-midi alors qu'il n'y a personne.
Ça serait d'imaginer déjà un petit peu les croisements,
Peut-être rien qu'en arrivant à décaler l'horaire, la vie dans le couloir, d'être dans une salle et puis d'entendre un cours de saxophone ou de guitare ou de phonium, c'est déjà la vie de l'école de musique. Après, ça c'est vraiment donc pour l'atelier en destination des résidents des fermes des Roches. Le fait qu'il soit ce jour-là à cette heure-là, ça contraint aussi. Benoît a pu assister à l'atelier parce que c'est un jour où il enseigne. Nos professeurs travaillent dans beaucoup d'écoles différentes du département. Ils viennent à des jours précis et pouvoir venir à l'atelier nécessite une organisation particulière pour eux, ce qui n'est pas faisable. Ce qui n'est pas faisable très facilement. Après, la question est là. Chaque professeur est très investi dans le projet parce que c'est vrai que je leur en parle souvent si je leur en parle souvent, c'est parce que je sens aussi qu'il y a l'intérêt est là. Comment envisageons-nous la suite? Peut-être arriverons-nous à avoir deux groupes qui viendraient à deux jours différents de la semaine, qui permettraient d'impliquer d'autres professeurs. Pour l'instant, nous sommes Gaëlle et moi sur un atelier. Si nous arrivions à avoir deux jours différents dans la semaine, ça impliquerait un autre binôme de professeurs.
Est-ce que ça veut dire aussi que depuis qu'a démarré cette collaboration avec le FAM de la Ferme des Roches, d'autres personnes, soit de manière individuelle ou d'autres institutions, ont commencé de se rapprocher de l'école en disant « Ah, on a entendu que... » Et est-ce que nous, il serait possible de pouvoir aussi bénéficier d'un travail musical avec vous? Ou est-ce que pour le moment...
Une fois, j'ai reçu un SMS. sur le téléphone portable de l'école, j'ai reçu un SMS. Êtes-vous autiste? Alors non. Donnez-vous des cours de musique pour les autistes. Donc j'ai réexpliqué par SMS parce que c'était la manière dont la personne était entrée en contact avec moi. J'ai réexpliqué que c'était l'atelier, que c'était un atelier qui était vraiment dans le cadre du partenariat. Et puis j'ai plus de nouvelles. Je suppose que c'est une personne atteinte d'autisme qui m'a. J'ai supposé ça. L'échange s'est arrêté là. Mais c'est vrai que j'ai commencé à y penser, à me dire que ce serait peut-être le moment de proposer un atelier, comme on a un atelier de musique actuelle, on a un atelier jazz, on a un atelier technique vocale ouvert à tous. Ce serait peut-être le moment de proposer un atelier musique et handicap ou peu importe l'intitulé qu'on mettrait à cet atelier, mais voilà, un atelier ouvert.
Qu'est-ce que vous en pensez Benoît Magnien, de cette idée de comment en tout cas essayer de trouver des modalités d'ouverture, en tout cas de pont, en tout cas déjà avec l'atelier et peut-être d'accueil à d'autres?
C'est vrai que moi j'interviens auprès des orchestres, des grandes formations comme ça, et c'est
pour nous, c'est assez facile d'imaginer. Bah voilà, on vient avec l'orchestre, on joue pour les résidents. C'est des choses qu'on imagine très facilement. On le fait pour la population. Mais c'est vrai qu'il y a un paramètre un peu différent, c'est que quand on vient jouer pour la population, elle s'assoit, elle écoute, et puis à la fin, c'est entendu entre nous qu'au bout d'1h30, voilà, tout le monde s'en va, et ça s'est bien passé. On voit bien qu'avec le public de la Ferme des Roches, ça peut être très différent, et c'est aussi à nous d'aborder ça avec les grands groupes, de dire... Voilà, si on veut jouer pour le public en situation de handicap, par exemple pour les autistes, eh bien, ça veut dire aussi qu'ils risquent d'intervenir dans notre concert à leur manière, par des gestes, par des chants, par des paroles. J'ai aussi des grands groupes réalisés par des enfants. Donc, pour des enfants, c'est une situation qui est assez déroutante et déstabilisante. Mais ça aussi, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on mette en œuvre, aussi bien avec les orchestres d'adultes qu'avec les orchestre d'enfants, pouvoir aller jouer pour ces publics-là en se disant, voilà, il va y avoir des interactions avec ce public et c'est ça qui est bien aussi, ça peut faire un spectacle tout à fait original
bien
pour
sûr.
Le coup. Voilà.
Hervé, justement, pardon, Magisano, pardon, excusez-moi, Marie Street parlait effectivement que vous intervenez aussi dans d'autres écoles, les uns et les autres.
Oui.
Et est-ce que c'est une question qui s'aborde justement dans les autres écoles où vous intervenez ?
Tout à fait, oui. Bah, notamment ici, à Bissur-Cheran, il y a un partenariat qui s'est mis en place avec le centre des Ridans, qui est juste à côté de nos locaux. Voilà.
Et là, dans ce cadre-là, vous avez déjà des liens avec certains de ces usagers ?
Alors, je suis intervenu sur quelques séances l'an dernier, cette année moins, tout simplement par manque de disponibilité.
Mmh. Voilà. Et quand vous entendez les questionnements qu'évoquait si bien Benoît Agnin ou Marie Astrid Barre sur les potentialités futures ou les perspectives il y aurait des angles que vous verriez par rapport à votre propre discipline, mais aussi dans ce que vous entendez, qui pourraient être des solutions pour essayer de commencer ces croisements et ces mélanges.
Alors, c'est vraiment une question d'objectif. C'est vrai que même si on a tendance à, d'après les descriptions qu'on a eues des dispositifs qui sont mis en place, on semble dire qu'il n'y a pas d'objectif. Pour moi, il y a quand même des objectifs qui sont... finalement une forme d'expression libre qui est spontanée, qu'on pourrait peut-être rapprocher d'un atelier d'improvisation libre dans lequel on pourrait inclure différentes personnes, qu'elles soient handicapées.
Effectivement, peut-être que des ateliers d'improvisation pourraient être un des espaces possibles où là, alors après différentes formes d'improvisation, effectivement peut-être plus libre ou autre, mais pourrait peut-être ouvrir des possibilités de rencontres, autant de propositions qui peut permettre à tout un chacun finalement de venir avec ce qu'il est et d'être en musique finalement avec voilà, ses potentialités et de pouvoir essayer de fabriquer une musique commune à partir de là.
Voilà, c'est ça. Parce qu'au-delà de ça, on a encore du mal à se projeter. Là. Comment inclure différentes personnes au sein de nos ateliers, par exemple de musique actuelle ou de cours collectifs? Comment faire? Alors qu'un atelier d'improvisation libre, ça pourrait être
une entrée.
Tout à fait.
Laurent Calu, pour vous, vous penseriez aussi par rapport à cette idée d'improvisation où vous évoquiez tout à l'heure à des aspects très multiples de la voix. Justement, est-ce que là aussi, ça pourrait être une entrée possible également?
Ah oui, absolument, oui. Sortir du chant, parce que déjà le mot chant déjà détermine déjà une esthétique, un cadre
normé,
aller vers une expression vocale généralisée, et oui effectivement peut-être en lien avec le théâtre pour l'expression corporelle vocale en général, oui absolument, oui.
Et Gaël Perra, vous aussi vous intervenez dans d'autres écoles, est-ce que c'est aussi quelque chose, en tout cas cette réflexion, vous sentez qu'elle se partage justement un peu dans ces... Elle fait partie des questionnements des équipes aujourd'hui dans les différentes écoles où vous intervenez aujourd'hui ?
Tout à fait. En fait, je suis à la fois dans des conservatoires municipaux et dans des écoles associatives. Et en fait, c'est vraiment une question d'actualité. C'est une volonté pour, je crois, que pour toutes les structures, en fait, de s'ouvrir vers le handicap et d'autres publics. Enfin, parce que il y en a beaucoup d'autres encore. Donc voilà, je crois que c'est vraiment une réflexion actuelle. Et juste pour rebondir à tout ce qu'on vient de dire, c'est vrai qu'en même temps, vouloir le faire ne veut pas dire pouvoir le faire. Et tout à l'heure, on parlait de formation. Je crois que c'est hyper important. Et il faut que, en fait, il y avait l'histoire de la formation et l'histoire du volontariat. Il faut avoir envie aussi. Et puis, en même temps, je ne sais pas, moi, par exemple, si j'aurais accepté de le faire comme ça, si c'était simplement lié à l'instrument. Si on m'avait demandé de donner des cours de hautbois, très précisément, j'aurais eu une autre réflexion. Je pense que c'est hyper important aussi de savoir ce qu'on veut enseigner ou ce qu'on veut découvrir ou faire découvrir. Et c'est vrai que les structures, en tout cas, qui mettent ça en place, se posent aussi la question. Donc, en effet, c'est vraiment quelque chose d'actuel.
Eh bien, voilà, c'est sur ces réflexions que vous venez de nous faire part que nous allons terminer cette émission. Nous arrivons au terme de celle-ci. Je reprécise qu'elle était enregistrée le 27 avril dernier au pôle culturel et sportif d'Albi-sur-Chéran, en Haute-Savoie. Merci à vous tous d'avoir répondu à notre invitation. J'espère, chers auditeurs, que vous avez eu plaisir à partager cet échange avec nous. Cette émission a été réalisée avec la complicité de Nicolas Goyon. Cette émission de résonance sera rediffusée vendredi prochain de 14h à 15h, puis mardi de 13h à 14h. Vous pouvez bien sûr réécouter quand vous voulez, quand vous le souhaitez, aussi longtemps que vous le voulez, la présente émission en la podcastant sur le site de Résonance Contemporaine, www.resonancecontemporaine.org, ou sur le site de Radio B, www.radio-b.fr. Merci de nous avoir accueillis chez vous et très belle journée sur Radio B.